Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Sonia Backès, présidente de la province sud et secrétaire d'État à la citoyenneté. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter notre invitation. Alors, vous revenez de Paris où vous avez participé au sein de la délégation non-indépendantiste aux discussions bilatérales avec la première ministre Elisabeth Borne, avec le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. Nous allons revenir, bien sûr, sur ces rendez-vous pour comprendre un peu ce qui s'est passé à Paris. Mais l'actualité sont aussi les déclarations récentes du président de l'UC en ouverture de son comité directeur, la semaine dernière, samedi dernier, et la plainte que vous avez déposée à son encontre pour appel à la haine, à la violence et à la sédition à l'encontre de l'État. Le procureur de la République a annoncé hier qu'il avait décidé d'ouvrir une enquête. Ça vous satisfait? Qu'est-ce que vous attendez de cette plainte, en fait?
Oui, vous savez, Daniel Goa, à chaque fois, tient des propos extrêmement violents. Il avait traité l'État de nazi. Dans un des discours précédents, il avait tenu des propos racistes à mon encontre il y a quelques années. À un moment donné, il faut que ça s'arrête, c'est-à-dire qu'il y a des lois, on est en République française. Moi, je considère que la plupart du temps, il faut quand même régler les problèmes politiques en politique, mais que on a un cadre, on a des lois. Vous savez, Daniel Goa fait ça tout simplement pour faire peur à l'État. En fait, quand il dit à l'État, nous, si le corps électoral est dégelé, plus jamais une élection pourra se tenir correctement, sous-entendant bien évidemment que il remplacerait les élections par de la violence. Il fait ça tout simplement pour dire à l'État, attention, si vous décidez de dégeler, le bazar il sera de notre côté. Donc en fait, tout simplement, c'est des menaces pour essayer de gagner ce qu'ils ne peuvent pas gagner politiquement ou électoralement, de le gagner par la menace. C'est juste insupportable. Donc c'est
très bien.
Et vous
voulez y mettre un coup d'arrêt, l'inciter à mesurer un peu ses propos, en fait.
Oui, je crois que faut que tout le monde soit conscient sur le fait que, sauf surprise, Daniel Goa n'ira pas en prison pour les propos qu'il a tenus. Mais en tout cas, il y a des lois. L'appel à la haine est un délit. Il doit être sanctionné. Il n'est pas au-dessus des lois, de la même manière que le président de la province Nord qui conduit en état d'ivresse, ou Daniel Goa d'ailleurs aussi qui s'était fait attraper en état d'ivresse. Personne n'est au-dessus des lois. Et donc, quand on ne respecte pas la loi, on doit être sanctionné. Donc, je trouve très bien qu'une enquête soit ouverte. L'idée, c'est quoi? C'est de dire que, vous savez, à chaque fois que Daniel Goa s'exprime, il y a des Calédoniens à qui ça fait réellement peur. En réalité, c'est des menaces, encore une fois, pour faire plier l'État. Mais ça fait peur à des Calédoniens. Et après, on a des gens qui s'en vont à la suite de ça. Et donc, il faut que ça s'arrête. Donc, l'idée, c'est de dire, il y a des règles, on re-rentre dans le cadre.
La violence de ces propos, est-ce que ça ne traduit pas aussi le fait que les indépendantistes ne sont pas prêts à discuter, ni avec vous, ni avec l'État, d'ailleurs? Ou est-ce que ça engage que Daniel Goa? Est-ce qu'il est... Il y a d'autres indépendantistes qui sont peut-être plus ouverts à la discussion?
En tout cas, s'ils sont plus ouverts, pour l'instant, ils ne l'affichent pas. C'est-à-dire que, vous le savez, tout le monde le sait, il y a des discussions qui se passent hors des caméras, sauf que personne ne les assume. Donc, moi, je considère que tant que personne n'a dit le contraire de ce qu'a dit Daniel Goa, c'est que tout le monde pense la même chose que lui. Donc, soit il y a des gens qui ont le courage de dire, pour l'avenir de nos enfants, pour la Calédonie, maintenant, il faut qu'on se parle, et puis ils acceptent de le faire publiquement. Le président de la province des îles l'a fait. Il a failli perdre sa province. Hein. Il a dû quand même se battre bec et ongles pour la garder. À l'époque, Pascal Sahoua avait eu le malheur de discuter avec nous. Il avait été sanctionné. Bon, visiblement, c'est quand même pas très simple, côté indépendantiste, d'accepter de se mettre autour de la table. Je crois que maintenant, il faut avoir le courage d'eux. Ils l'ont pas pour l'instant. Ils ont refusé les trilatérales. Je veux garder un espoir pour être positif, parce que je crois malgré tout que tout ça, ce sont des postures, et que tout ça, ça finira par s'arrêter. Je veux croire que lors de la prochaine venue de Gérald Darmanin, la première semaine de juin prochain, on aura des trilatérales, parce que maintenant, ça suffit.
Est-ce qu'on sait, est-ce que c'est un peu flou ce qui s'est passé à Paris dans cette semaine de discussion bilatérale? Est-ce qu'on sait notamment ce que se sont dit les indépendantistes et l'État? Est-ce qu'ils ont pris l'engagement d'accepter les trilatérales au mois de juin quand le ministre viendrait, ou pas du tout?
Alors bon, l'État a fait le choix de raconter aux indépendantistes tout ce que les non-indépendantistes lui disaient, et de raconter aux non-indépendantistes tout ce que les indépendantistes lui disaient.
Ils font ce
qu'on appelle le go-between. Oui. Mais voilà, donc il nous a effectivement raconté ça. Il n'y a pas eu d'engagement de la part des indépendantistes de venir en trilatéral, en tout cas pas à notre connaissance à ce stade. Mais encore une fois, on verra bien. C'est-à-dire que je crois qu'à un moment donné, encore une fois, ça suffit. Il y a deux options maintenant. Il y a une option qui est que les indépendantistes acceptent de se mettre autour de la table avec nous, parce qu'on a vocation à vivre dans ce pays tous ensemble la première semaine de juin, et on avance tous ensemble et on trouve un consensus sur les différents sujets, soit ils veulent pas parler avec nous et c'est l'État qui devra mettre un projet sur la table, et l'État mettra un projet, on verra à qui il plaît, à qui il plaît pas, mais en tout cas, sur ce qui concerne le corps électoral, Gérald Darmanin a été très clair. Il a dit très clairement, un, je ferai les élections à l'heure, c'est-à-dire en mai 2024. Deux, elles se tiendront sur un corps électoral dégelé. Donc ensuite, à partir de là, ça veut dire que bah, les indépendantistes, s'ils décident de ne pas se mettre autour de la table, ils peuvent continuer à se victimiser. Mais ils ont eu 4 fois l'occasion de voir l'État. Ils ne viennent pas, ils refusent les trilatérales. Maintenant, ça suffit.
Mais vous le dites vous-même, Daniel Goa tient ses propos un peu violents, notamment sur l'ouverture du corps électoral, pour faire peur à l'État. Est-ce que l'État a peur ?
J'ai pas le sentiment
Est-ce qu'il va tenir bon jusqu'au bout ? C'est un peu la question que se pose les Calédoniens quand même.
Vous savez, je sais pas si les Calédoniens suivent ce qui se passe en métropole. Sur les retraites, on a quand même un président de la République qui a tenu, qu'on soit d'accord ou pas, mais en tout cas qui s'était engagé avant sa campagne à mettre en place cette réforme, qui l'a mise en place et qui ne bouge pas aujourd'hui malgré les actions extrêmement violentes qui sont organisées. D'autre part, Gérald Darmanin, qui quand même tient bon la barre, comme on dit chez nous, sur les événements violents qui se sont passés à Sainte-Soline, à Paris pendant les manifestations, maintenant à Mayotte, et qui a été très clair et qui a dit, moi, je n'organiserai pas d'élection avec un corps électoral gelé. J'ai pas l'impression que les menaces de Daniel Goa inquiètent beaucoup ni Gérald Darmanin ni Emmanuel Macron.
Alors, on a un peu de peine à comprendre ce qui s'est vraiment passé, donc on sait à peu près, vous nous dites ce que l'État vous a dit un peu, ce que lui ont dit les indépendantistes. Mais vous, qu'est-ce que vous avez dit à la Première Ministre et à Gérald Darmanin? Est-ce que les discussions étaient du même ordre et sur quel thème ça portait? C'est vraiment les deux thèmes qui avaient été fixés par l'État, qui voulait parler du corps électoral et de la question de l'autodétermination.
Alors il y a eu plusieurs séquences. Il y a eu une première séquence un peu formelle, qui est celle avec la Première Ministre, où en fait ce sont des discours préécrits dans lesquels on pose nos avis sur les différents sujets. Et puis après, il y a des séquences de discussions plus ouvertes. Et là, en fait, on a posé nos positions à nous. Nos positions à nous, c'est quoi ? C'est de dire, bon, le corps électoral, c'est pas négociable. C'est-à-dire que c'est pas une position des loyalistes de dire qu'il faut dégeler le corps électoral. Le corps électoral, il ne peut pas rester gelé. Donc ça, excusez-moi, mais check. C'est-à-dire que c'est un sujet. Évidemment, on ne laissera pas des élections provinciales se tenir avec un corps électoral gelé, mais c'est même pas une négociation, vous voyez ce que je veux dire, c'est obligatoire. Ensuite, l'État a voulu poser le sujet du droit à l'autodétermination, parce que les indépendantistes disent, bah nous on veut garder un droit permanent à l'autodétermination, qui est sans doute en partie constitutionnel, à vérifier juridiquement, mais en tout cas... Il y a ce sujet-là. Et nous, on a dit, mais nous, on n'en veut plus de nouveaux référendums. Nous, on vient de faire 3 référendums en 4 ans. On a souffert énormément. Les gens sont partis. On n'en veut plus de ça. Donc, on n'a pas envie que ce sujet-là soit sur la table aujourd'hui. Donc, nous, si effectivement, on nous impose ce sujet-là, on considère qu'il ne faut plus qu'il y ait un référendum fixé à une date fixe, comme ça a été le cas pendant l'accord de Nouméa. Et puis après, on a voulu poser également d'autres sujets. Et notamment le fait que, les Calédoniens se sont exprimés 3 fois pour rester français. Et que maintenant, la France doit montrer sa présence en Nouvelle-Calédonie. Être réellement présente, c'est le cas sur le plan militaire. Alors en ce moment, on a l'opération Croix du Sud qui fait qu'on est extrêmement visible, mais il doit y avoir une présence militaire plus forte. Il doit y avoir, sur la question du nickel, on a des ambitions. La France a des ambitions très fortes en matière de batterie pour les voitures électriques. Le nickel doit devenir une filière stratégique pour la France. Et donc, le nickel calédonien doit peser à l'échelle de la France. Sur le plan des relations internationales, la France est présente dans le Pacifique. Il faut que l'État marque cette présence-là dans le cadre de la stratégie sur l'axe Indo-Pacifique. Donc, on a posé, nous, nos demandes pour dire, bah, maintenant, et en plus, la dernière, ce qui est quand même, et pas des moindres, c'est le fait de dire qu'aujourd'hui, on vit dans une Nouvelle-Calédonie où la majorité de la population est non indépendantiste et le Congrès et le gouvernement sont à majorité indépendantistes. Et ça, pourquoi? Tout simplement parce que les voix des électeurs du Nord et des îles pèsent plus lourd que celles du Sud. Eh bien, on dit que ça ne peut pas continuer. Il faut revenir à un système où chaque électeur a le même poids quel que soit l'endroit où il habite.
Ça, c'est déjà dans les éléments d'un futur statut, d'un nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie. Alors, on sait que les républicains calédoniens, les loyalistes ont posé un projet. Le Rassemblement a déposé une feuille de route également, juste avant son départ pour Paris. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, est-ce qu'on voit un peu les contours que pourrait avoir ce futur statut, en tout cas de ce que vous proposerez, vous, si un jour vous arrivez à avoir des discussions trilatérales avec tous les partenaires pour essayer de trouver un nouvel accord?
Alors, c'est pas seulement quelque chose qu'on imagine, c'est aujourd'hui très concret. Avec le rassemblement, entre le rassemblement et les loyalistes, donc entre Virginie Rufnak, Alcide Ponga qui était à Paris, Nicolas Metzdorf, Gilles Brial, Brieux-Frogier et moi-même qui étions à Paris au titre des loyalistes, on a déposé un dossier commun, une feuille de route commune qu'on a déposée à Gérald Darmanin. Et cette unité, elle est absolument essentielle pour la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et d'ailleurs on fait en ce moment une tournée tous ensemble parce que on porte la même voix et une voix extrêmement forte pour les différents sujets que j'ai évoqués avec vous tout à l'heure. La seule voix dissonante, parce que on était 8, vous savez, autour de la table, les 6 que j'ai déjà cités, et il y en avait 2 autres qui étaient Philippe Dunoyer et Philippe Gomez. Philippe Dunoyer, quand il prend la parole, il prend des positions qui sont compatibles avec les nôtres, c'est-à-dire que il va pas à l'encontre, il prend des positions qui sont compatibles. On a juste Philippe Gomez qui lui dit 2 choses principales, qui d'abord passe à peu près une trentaine de minutes en début de chaque réunion à expliquer à l'État ce que veulent dire les indépendantistes. Donc des fois qu'ils n'avaient pas bien compris quand ils les ont reçus, Philippe Gomez leur traduit, parce que des fois qu'ils soient un peu bêtes, ils comprennent pas bien ce qu'ils disent. Donc il explique ce que les indépendantistes peuvent accepter, ce qu'ils peuvent pas accepter, vu par Philippe Gomez, hein, parce que des fois les indépendantistes disent pas la même chose, en tout cas c'est ce que le ministre nous rapporte. Donc ils disent ce qu'ils pensent qu'ils veulent. Et puis, la deuxième chose, c'est il dit qu'il faut commencer par faire une concession si on veut les avoir autour de la table. Donc, bon, c'est une vision des choses hein, qu'il a testée, lui, pendant les 15 ans où il était au pouvoir en Nouvelle-Calédonie et qui n'a pas apporté beaucoup d'avancées en termes ni de consensus, ni d'évolution d'un nouvel accord, d'un nouveau statut. Donc, nous, on dit, aujourd'hui, les choses sont claires, on a voté 3 fois non. On doit mettre en œuvre l'accord de Nouméa que chacun a signé prévoit que les partenaires se retrouvent. On se retrouve, on discute. C'est pas la question de commencer par faire une concession. Laquelle? Et il parle de forme de souveraineté. Alors je sais pas jusqu'où il veut aller sur la forme de souveraineté.
Il parle aussi beaucoup de... Il martèle une Calédonie une et indivisible. C'est un argument qu'il assène contre l'hyperprovincialisation ou la différenciation provinciale, c'est un argument qui peut marquer encore les Calédoniens, ou est-ce que vous défendez vous aussi une Calédonie une et indivisible?
Oui, alors on défend tous une Calédonie une et indivisible, tant et si bien qu'en fait dans le projet qu'on a déposé à Gérald Darmanin et dans les institutions qu'on propose de mettre en place, on propose de les mettre en place pour rendre finalement nos positionnements au Congrès et au gouvernement, qui sont bien les institutions qui sont les institutions à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, pour cette Nouvelle-Calédonie une et indivisible, qu'elle soit plus représentative de la population. Donc si on défendrait pas ça si on voulait couper la Nouvelle-Calédonie. Donc très clairement, on défend tous une Nouvelle-Calédonie une et indivisible. Personne autour de la table ne défend une forme de partition. Simplement, on considère qu'aujourd'hui, on a des compétences qui ne fonctionnent plus. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, on va sans doute parler de l'enseignement privé, ne fait pas le travail qu'il doit faire pour les Calédoniens. Et donc, on a des compétences enchevêtrées, croisées, c'est insupportable. Donc, il faut tout simplement clarifier les choses, aussi pour faire des économies, hein, parce que quand il y a 3 collectivités qui font le même travail, ça marche pas, hein. Donc, il va falloir aussi dire que l'agriculture, c'est la province ou le gouvernement, peu importe, mais en tout cas, c'est une collectivité, et c'est pas un peu d'agriculture à la Nouvelle-Calédonie, un peu d'agriculture à la province, un peu à la mairie. C'est infernal. Donc ça doit être clarifié. Donc on dit, effectivement, maintenant, il faut clarifier les choses. Effectivement, les provinces doivent avoir des compétences de proximité avec les Calédoniens. Et d'ailleurs, dans le programme de Philippe Dunoyer aux élections législatives, il y avait de la fiscalité aux provinces. Donc il est visiblement parfaitement en phase avec ça. Simplement, donc voilà, il y a des compétences à re-répartir qui doivent être clarifiées.
Est-ce que sur cette répartition des compétences, justement, est-ce qu'il sera en fait l'ossature du nouveau statut? Est-ce qu'il n'y aura pas plus de facilité de trouver des points d'accord, un consensus avec les indépendantistes? Est-ce qu'il fallait commencer par les points bloquants, c'est-à-dire le corps électoral, l'autodétermination, plutôt que de rentrer dans le cœur du sujet, qui est celui du futur statut, qu'il va bien falloir trouver un jour quand même?
Le problème, c'est que les indépendantistes ne veulent parler de rien. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est sur les points durs, parce que de toute façon, le calendrier où on doit trouver une solution avant le mois de septembre est trop court, donc il faut bien en arriver au point dur. Mais je rappelle que l'État a mis en place des groupes de travail qui visent à travailler sur les sujets sur lesquels, effectivement, on est capable de trouver des points d'accord. la cohésion sociale, les questions d'enseignement, les questions de relations internationales. C'est des sujets sur lesquels on est capable de se mettre d'accord. Mais ils ne participent pas à aucun groupe de travail. Donc ils auraient pu, eux, faire le choix de dire, bon, on accepte, on n'aborde pas les sujets compliqués, on aborde les sujets simples, entre guillemets. Mais ils viennent même pas à ça.
En revanche, ils semblent avoir été satisfaits, eux, ils ont encore fait très peu de déclarations, ils semblent satisfaits de leur de la session de bilatérale qu'ils ont eue avec l'État à Paris, en disant qu'ils avaient été entendus. Comment est-ce que vous voyez la suite des choses?
Écoutez,
Gérald Darmanin annonce sa venue début juin.
Ils sont arrivés sans mandat et avec le seul point d'accord entre eux qui était l'indépendance. Donc ils sont repartis en ne disant rien, donc ils peuvent être satisfaits puisqu'ils avaient promis de rien dire, ils ont rien dit. Je pense que dans ce sens-là, ils sont satisfaits. Bon, écoutez, je pense que la comédie a assez duré, si vous me permettez. C'est-à-dire que maintenant, bon, ça fait 4 fois, hein, 2 fois à Paris, 2 fois à Nouméa que Gérald Darmanin vient. Ça sera la 3e fois. Soit on avance tous ensemble, soit à un moment donné, ben, on avance avec ceux qui veulent avancer, quoi.
Alors, auparavant, Gérald Darmanin doit se rendre à New York. Hein. Dès le mois de mai, il a dit devant le comité de décolonisation. Qu'est-ce qu'il va dire à l'ONU, selon vous?
Écoutez, c'est pas moi qui vais vous dire ce que Gérald Darmanin va dire, mais le soutien, enfin le suivi par l'ONU est important. C'est-à-dire que il y a un moment où, dans notre histoire récente, hein, il y a même à peine une dizaine d'années, les seuls qui allaient à l'ONU, c'était les indépendantistes. Donc les indépendantistes expliquaient, on voyait les discours passer, expliquaient à l'ONU que le peuple kanak était opprimé en Nouvelle-Calédonie, que les droits n'étaient pas les mêmes pour eux, que enfin c'était juste hallucinant quand on sait ce qui a été fait en matière de rééquilibrage dans les accords de Matignon et l'accord de Nouméa, c'était affolant. Depuis quelques années, non seulement les non-indépendantistes vont pour dire la réalité, mais en plus l'État. L'État y va, Sébastien Lecornu l'avait fait, Gérald Darmanin le fait, et je pense que c'est très important parce qu'à un moment donné, l'ONU, en tant qu'observateur, dit oui, non, le processus de décolonisation est fait correctement, vu de leur prisme, hein, par la France ou pas. Et jusqu'à présent, l'ONU le suit de près et considère qu'effectivement, le processus de décolonisation a été fait tout à fait correctement, avec, je le rappelle, 3 référendums, c'est quand même exceptionnel en termes de processus de décolonisation, avec un corps électoral très favorable aux indépendantistes, des processus d'inscription très favorables aux indépendantistes. Je rappelle que les Kanaks étaient inscrits automatiquement et pas les personnes de statut de droit commun. Bon, on voit bien que il y avait quand même des avantages. Et donc, je pense que c'est important que la France, donc le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, qui s'occupe de la Nouvelle-Calédonie, aille donner directement la parole de la France à l'ONU.
Mais pour l'instant, il n'y a pas d'idée, de volonté de la France de faire retirer la Calédonie de la liste des pays à décoloniser. C'est en tout cas trop tôt au stade actuel du processus.
Pas à ma connaissance. Encore une fois, le fait de sortir de la liste des pays à décoloniser, ça devra se faire au moment où on aura trouvé un statut pérenne et consensuel entre les uns et les autres.
Vous êtes optimiste, sincèrement, pour trouver ce statut pérenne, consensuel entre les uns et les autres, comme vous avez dit. On parlait de septembre. Le calendrier paraît court quand même.
Vous savez, vous me demandez si je suis optimiste. Je commence à être une vieille élue. Ça fait 14 ans que je suis élue. Des situations difficiles, on en a vécu d'autres. Des situations de blocage, on en a vécu d'autres. Il y a quelques mois à peine, le conflit de l'usine du Sud. On était sur des barrages parfois armés les uns contre les autres. Au final, on trouve des solutions. Donc oui, je suis pas d'un optimisme béat qui me ferait oublier d'être vigilante, mais je crois profondément que comme on a tous vocation à continuer à vivre sur cette terre, eh bien on finira par faire ce qu'il faut pour le faire. Et donc je suis extrêmement vigilante sur tout ce qui se passe parce que encore une fois, il y en a qui peuvent croire que Daniel Goa serait tout seul et qu'en fait, dans le monde des bisounours, tout ça n'est pas une grande stratégie et que c'est juste qu'ils sont pas d'accord entre eux. Non, je crois qu'il faut être lucide. Les indépendantistes savent ce qu'ils font. Ils veulent faire peur à l'État. Ils font de l'immobilisme pour essayer de se victimiser à la fin si le corps électoral venait à être dégelé, ce qu'il sera. Encore une fois, la victimisation, ça commence à bien faire. Ils l'ont fait sur le 3e référendum, alors qu'ils ont menti les yeux dans les yeux au président de la République.
Ils veulent aussi gagner du temps. Ils ont tout intérêt à ce que les choses traînent le plus possible. là encore, c'est peut-être pas de l'optimisme là, mais de la, politiquement, de l'analyse politique, est-ce que le chef de l'État sera en mesure, si un accord est trouvé en Calédonie, de réunir un congrès à Versailles et de faire passer une modification de la Constitution pour faire évoluer le statut de la Nouvelle-Calédonie, aussi bien sur le corps électoral d'ailleurs que sur la sortie de l'accord de Nouméa?
C'est là que notre unité est très importante, parce que pour réussir à faire modifier la Constitution pour dégeler le corps électoral, il faut la majorité à l'Assemblée nationale, la majorité au Sénat et la majorité des 3/5 sur l'ensemble des deux chambres réunies. Ça fait un certain nombre de parlementaires, et les gens qui appartiennent à la majorité présidentielle, au parti d'Emmanuel Macron, ne suffisent pas. Pour avoir cette majorité des 3/5, il faut y ajouter la totalité des élus républicains, du parti des Républicains, et sans doute une partie du Rassemblement National. C'est pour ça que quand on a été à Paris, on n'a pas fait que voir la Première Ministre, c'était déjà très important, la Première Ministre et le Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. On a aussi vu les groupes politiques pour savoir s'ils nous soutiendraient dans le cas d'une modification constitutionnelle visant notamment à dégeler le corps électoral. Et la réponse qui nous a été donnée par les différents responsables politiques que j'ai cités, donc les Républicains et le Rassemblement National, c'est qu'on aurait un soutien de leur part. Et ça, c'est aussi lié à notre unité locale. C'est aussi parce que, avec Nicolas Metzdorf et Gilles Brial, nous travaillons avec Virginie Ruffnac, Alcide Ponga, Pierre Frogier, pour avoir une position commune. Donc oui, c'est possible, d'un point de vue des chiffres, c'est possible de modifier la Constitution. Oui, c'est possible d'un point de vue du calendrier. Ensuite, c'est une question de volonté. Et sur la question de volonté, je crois que le président de la République l'a démontré au moment de l'organisation du troisième référendum, là où tout le monde lui disait « Surtout, fais pas un troisième référendum avant la fin de ton quinquennat. Ça va être un bazar bleu en Calédonie. Ce serait suicidaire de faire ça. » Il a dit « Je me suis engagé à aller au bout du processus avant la fin du quinquennat, je le ferai. » Là, il a dit très clairement, par la voix de Gérald Darmanin, qu'il ne laisserait pas organiser des élections provinciales avec un corps électoral gelé. Je suis convaincu qu'il fera ce qu'il faut pour le faire.
Alors, je suis à votre rendez-vous politique, hein, sur les élections sénatoriales qui ont lieu en septembre. Elles aussi, on parlait de septembre pour l'échéance du nouveau statut. On sait que Pierre Frogier est candidat à un nouveau mandat. Il l'a annoncé il y a quelques semaines maintenant. Quelle va être la physionomie de ce scrutin, à votre avis? Est-ce qu'il va y avoir d'autres candidats non indépendantistes face à Pierre Frogier? Comment ça se prépare, cette échéance?
Alors, je rappelle qu'il y a deux postes. Il y en a pas qu'un seul. Donc, il y a deux postes de sénateurs qui sont aujourd'hui occupés par Gérard Poadjat et Pierre Frogier. Et je rappelle que dans la période dans laquelle on y est, les Calédoniens s'intéressent peu au sénatorial parce que c'est une élection c'est des grands électeurs. Donc, il y a que 500 personnes qui votent. Donc, évidemment, les Calédoniens regardent ça d'un peu loin. Mais c'est une élection très importante parce que ce sont les sénateurs, notamment, comme les députés, qui vont avoir à voter la modification constitutionnelle. Et je le répète, le plus important dans notre affaire en ce moment, c'est notre unité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partir au feu, excusez-moi du terme, mais on ne peut pas partir dans ce processus qui est un peu long sans unité entre la majorité présidentielle et les Républicains. Et donc, forcément, il y aura pour les sénatoriales la nécessité d'avoir un partage de responsabilités entre les gens de Renaissance, donc du parti du président de la République, et les Républicains, de manière à représenter l'ensemble de la classe politique qui devra modifier la Constitution.
Et donc ça se retient qu'il y a lieu encore dans quelques mois. Actualité politique calédonienne également, vous êtes présidente de la province sud. On parle beaucoup depuis quelques jours des problèmes de financement de l'enseignement privé, avec qui doit payer, les provinces, le gouvernement, chacun a l'air de se renvoyer un petit peu la balle. Quelle est la position de la présidente de la province sud?
Alors, c'est même pas une question de position, c'est une question de qui a la compétence et qui a dit quoi. Donc, on s'est réunis avant. Malheureusement, Louis Mapou ne réunit plus le groupe de travail des présidents d'exécutif depuis le mois de septembre 2022. Donc, ça fait 8 mois qu'il réunit plus ce groupe de travail, qui est quand même absolument essentiel.
C'est la responsabilité du président du gouvernement de réunir cette instance.
C'est lui qui réunit l'ensemble des présidents d'exécutif. Dans ces réunions, il a été décidé que de faire la répartition en fait sur les compétences de chacun. C'est assez simple. Hein. Ce qui concerne le primaire, c'est les communes. Ce qui concerne les collèges, c'est les provinces. Ce qui concerne les lycées, c'est la Nouvelle-Calédonie. Donc, il fallait simplement faire les calculs pour savoir qui devait payer quoi. Et en collégialité, ça a été rappelé par Isabelle Champmoreau dans un courrier qu'elle a écrit à Louis Mapou aujourd'hui. Le 21 décembre dernier, il a été acté la manière dont on répartissait. Ensuite, malheureusement, au niveau... Donc, chacun a traduit ça dans son budget. en fonction de la répartition de chacun, ce que nous avons fait. Malheureusement, la Nouvelle-Calédonie n'a pas inscrit sa part. La Nouvelle-Calédonie, finalement, vous savez, ne donne rien à l'enseignement privé. En fait, elle ne fait, la Nouvelle-Calédonie, que prendre l'argent de l'État et le redonner à l'enseignement privé. Elle met zéro en plus sur la base de son budget à elle, ce qui est quand même absolument hallucinant, alors qu'elle est en charge en partie de la compétence comme chacun d'entre nous. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, on s'est dit, c'est un oubli, parce qu'au départ, c'était dans le rapport de présentation du budget qui prévoyait que les compétences devraient être assumées par la Nouvelle-Calédonie. Puis ça se traduit pas en sous, vous savez, en espèces sonnantes et trébuchantes qui permettent tout simplement aux jeunes enfants qui sont scolarisés dans l'enseignement privé de pouvoir continuer à avoir de la cantine, de l'internat et des enseignements. Et bien ça s'est pas traduit. Donc on s'est dit, c'est un oubli, on va déposer un amendement. Comme ça, les sous, enfin ça va y être, quoi. Il va y avoir
lors de l'examen du budget.
L'examen du budget de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'on a vu quand même que la Nouvelle-Calédonie avait de l'argent, puisqu'elle augmente sa masse salariale de 350 millions, elle augmente le budget du Sénat coutumier de 21%, le budget en matière de coopération régionale, parce que ça allait partout dans le monde, il y a visiblement de l'argent, de 40%. Donc visiblement il y avait de l'argent à Nouvelle-Calédonie, et malgré ça il n'y avait pas de budget. Donc on a déposé un amendement qui a été rejeté par le président du gouvernement et la majorité indépendantiste. Donc ils ont rejeté l'argent supplémentaire qui aurait permis à l'enseignement privé de fonctionner. Donc nous on dit, bon, maintenant on arrête de se rejeter la balle. J'ai écrit hier au président du gouvernement pour lui dire, c'est la quatrième fois que je demande, dont une fois où j'ai fait un courrier conjoint avec le président de la province des Îles pour demander au président du gouvernement de réunir le GTPE. Je lui ai réécrit hier pour lui dire, maintenant ça suffit, on doit se réunir pour trouver une solution, on va pas prendre en otage ces pauvres enfants qui sont inscrits dans l'enseignement privé et les parents qui vont avec, parce que le président du gouvernement refuse d'inscrire l'argent nécessaire.
Donc une solution va être trouvée, on peut rassurer, on sait que les parents s'inquiètent beaucoup, on les entend tous les jours se demander quelle va être l'issue de ce conflit. A priori, on peut penser qu'une solution, la sagesse va l'emporter, une solution va être trouvée.
Je le souhaite, encore une fois, j'ai demandé au président du gouvernement de nous réunir. C'est la seule solution. J'espère qu'ils vont pas faire comme sur les discussions sur l'avenir institutionnel et ne parler qu'entre eux, parce que ça risquerait de pas fonctionner. Donc je crois quand même que c'est l'intérêt général qui doit primer.
Un dossier à suivre. Donc on vous le demande à chaque fois, combien de temps vous restez en Calédonie, qu'est-ce que vous allez faire et quand est-ce que vous allez rejoindre Paris et vos missions à Paris?
Je repars en fin de semaine prochaine et je reviendrai quand le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer sera là.
En attendant, vous en profitez, vous devez être l'une des seules membres du gouvernement Borne à pouvoir vous promener tranquillement et sans casserolade, comme on dit.
J'ai pas eu de casserole dans notre tournée loyaliste à Koumak, à Bourail, à Koné, et la semaine prochaine à la fois à Païta et à Boulou Paris. Pour l'instant, on n'a pas eu de casserole, je crois pas que ce soit l'ambiance en Nouvelle-Calédonie.
Ne vous en
plaignez
pas.
On verra au retour.
Ne leur donnez pas d'idées.
On verra au retour.
La fin de ce magazine Transparence, merci d'accepter
merci.
Votre invitation.
C'était le magazine Transparence présenté par Elisabeth Noir.